Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de la mettre. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Vous écoutez Le Tarn à l'envers, l'émission de CFM Radio qui met en lumière des hommes et des femmes qui tracent un chemin durable et réinventent notre lien à la terre et l'environnement. Chaque semaine, partons à la rencontre et à la découverte d'initiatives vertueuses et inspirantes. Le Tarn à l'envers sur CFM Radio pour cultiver l'espoir et semer demain.
Je vous propose aujourd'hui un deuxième épisode sur l'éco-construction avec Gaël Cortès, qui est artisan en éco-construction sur la ferme collective et polyvalente des Chlorophylliens à Monestier dans le Tarn. Cette fois-ci, il nous parle un petit peu plus des techniques constructives qui ont été utilisées pour la rénovation sur la ferme.
Les objectifs, bon, clairement pour moi ici c'était un terrain de jeu de mettre en œuvre justement cette fameuse éco-construction, il y avait cette perspective, cet objectif de diminuer les consommations en énergie du bâtiment pour se chauffer, voire pour le refroidir. Et moi, pour moi, le grand terrain de jeu, c'était notamment de pouvoir réaliser la meilleure isolation thermique qui soit, qui est une isolation thermique par l'extérieur. Et en mettant une grosse doudoune en bottes de paille sur les deux plus gros murs de la ferme.
Avec une grosse épaisseur, du coup.
Avec une grosse épaisseur. Alors voilà, moi, j'étais tout excité parce que justement, on avait la place pour le faire, parce qu'en centre-ville, par exemple, c'est possible. Ici, on n'était pas concerné par ça. On a pu mettre cette grosse doudoune, ouais, de 40 cm quasiment de bottes de paille, quoi, sur des murs de 60 cm. Donc, on a un peu l'impression de rentrer dans un château fort, parfois, si on regarde quand on passe la porte. Donc ça, c'était l'intérêt, c'était l'objectif de rénovation ici, d'employer des matériaux qui rentrent dans le champ de l'éco-construction, et notamment énormément la terre crue, qui vient voilà, remplir cet intérêt aussi, contrairement à une plaque de plâtre qui va être notamment peinte avec une peinture qui aura des résines, ici du pétrole, donc qui va créer des films plastiques. Bah, c'est que là, on garde tout le fonctionnement normal, on va dire, et sain du bâti ancien, de ces matériaux-là. C'est-à-dire ici, c'est de la pierre bâtie avec de la terre, hein, tout simplement. Ils ont fait des trous à côté, ils ont créé une mare, ils ont sorti les pierres et la terre, et ils ont bâti, quoi. Et donc là, dans ce mur-là, bah, il y a des échanges, il y a de la vapeur d'eau, voire de l'eau, parfois, qui peut se condenser, qui passe. Enfin, c'est un matériau, on va dire, vivant, tu vois, qui respire, on dit qui perspire dans le bâtiment, en termes de paroi, en fait, qui respire, perspirance. Et ça, avoir des matériaux comme de la terre ou de la paille, voire et de la chaux en extérieur, de la chaux aérienne, ça permet de garder toute cette respiration du bâtiment et du coup de ne pas avoir des problèmes d'humidité à l'intérieur du bâtiment et aussi pour la pérennité du bâti lui-même. Je sais que les murs ont été enduits au ciment. Bien là, le ciment fait que lui, il est étanche par contre. C'est un super matériau le ciment, s'il n'était pas aussi énergivore et s'il n'était pas étanche. Voilà, il est très dur, waouh, ça c'est top, ça peut être très avantageux parfois, sauf qu'il est complètement étanche, lui, enfin, on considère très très étanche à la vapeur d'eau, ce qui fait que, ben, en fait, l'eau qui remonte du sous-sol, notamment sur le bâti ancien, parce qu'il n'y a pas de vide sanitaire et tout ça, et cette eau-là, elle peut se trouver piégée dans le mur, en fait, ce qui fait que le mur en terre, il se désagrège de l'intérieur, quoi. Donc ça, d'avoir des enduits en terre crue, pas de ciment, ou à la chaux aérienne, qui est une chaux, voilà, essentiellement de calcaire, ça fait qu'on on respecte le bâti, en fait, on lui permet d'avoir une pérennité, quoi. Voilà.
Donc vous avez fait une isolation par l'extérieur en bottes de paille avec des enduits terre sur cette ferme, une isolation de toiture, j'imagine.
Tout à fait. Ouais, qui est quand même le poste principal. La chaleur s'en va par le haut, monte, s'en va par le haut. Même si, là, ici, il y a beaucoup de surface de mur. Enfin, on sous-estime quand même l'isolation des murs, mais selon le type de bâtiment, sûr qu'un bâtiment en plein pied, ça va être la toiture, quoi. Un bâtiment avec deux étages, ça fait quand même une belle surface de mur, et c'est très intéressant, du coup, de se retrouver à isoler les murs. Même, j'ai vu passer des documents qui reviennent quasiment même sur l'importance des fenêtres par rapport aux murs, quoi. On parle beaucoup des fenêtres. Et en fait, les murs, c'est très, ça peut être très important selon les bâtiments. Et la toiture, en effet, on l'a isolée aussi. Alors, pas en bottes de paille, celle-ci. Ça aurait pu être possible, mais ça aurait demandé de renforcer pas mal la charpente, qui est quand même une vieille charpente un peu fragile. Et là, on a isolé avec un autre matériau, qui est lui plus un matériau, on va dire, industriel, qui est de la ouate de cellulose, mais qui reste en gros du papier recyclé, quoi.
Une isolation des murs, du toit, une chaudière bois, du double vitrage.
Voilà.
C'est quoi les projets à venir ?
Continuer un peu l'isolation de certains murs qui ne sont pas isolés. On est sur une sorte de vide sanitaire ici. On a une cave, c'est semi-enterré. Donc c'est terminé d'isoler un plancher qui, lui, n'a rien. Mais moi, ça peut être d'un grand contentement déjà de bénéficier un peu des avantages des travaux que je faisais, parce que sinon, avant, c'était partout ailleurs chez les autres. Et là, de passer d'une chambre qui était peut-être la plus froide, où j'avais un radiateur du chauffage central allumé avec l'ancienne chaudière fuel, et même je mettais un appoint électrique parce que j'avais froid à certains moments de l'hiver, à l'année après qu'on ait isolé les murs. La toiture était déjà isolée, mais après qu'on ait isolé les murs, bah là, même je coupais mon chauffage central parce que rien que les autres pièces qui chauffaient, j'avais trop chaud du coup. Donc ça, c'était quand même énorme, c'était génial. J'étais quand même souvent dans ma chambre. ça marche. J'avais regardé que on était encore au fuel, on n'avait pas encore changé à chaudière bois l'année après, l'hiver après, et l'année complète d'ailleurs après l'isolation des murs notamment. Et j'ai vu qu'on avait utilisé entre un quart et un tiers en moins de fuel. Donc ce qui est quand même énorme, et ça juste avec deux murs dans la maison isolée en bas de bail. Voilà, à partir du moment où on évite ce fameux effet rebond dont on parle de plus en plus, où les gens ont tendance du coup à chauffer leur intérieur à 25 et être tout le temps en slip, j'imagine. Donc,
si on reste avec les mêmes besoins de chaleur à une vingtaine de degrés à peu près.
C'est ça, ouais, si on s'en tient à 19 degrés recommandé par l'OMS à l'intérieur d'une maison, bah, en fait là pour le coup, il y a vraiment de vrais gains à isoler la maison en termes de consommation et donc de facture derrière d'énergie, quoi. Donc, ouais, encore de l'isolation à terminer, et puis après on en viendra juste au confort intérieur. Les finitions et tout ça, et ça, on sera sur autre chose. Et l'intérêt aussi de faire ça ici dans la ferme, notamment dans les pièces communes du boss, c'est qu'on a quand même pas mal de passages, de gens qui viennent et qui voient la ferme, et même à l'extérieur aussi, de gens qui viennent à la vente à la ferme, et voilà, qui voient en œuvre ces procédés-là, ces matériaux-là, et ça peut les inspirer après pour chez eux.
Est-ce qu'il y aurait une idée reçue, ou deux, ou plusieurs, sur l'éco-construction que tu aimerais venir un peu s'aborder ?
Les gens voyaient l'éco-construction et la terre notamment comme un truc de hippie ou de bouseux. Et c'était vu un peu comme des maisons justement, un peu de briques et de brocs, et pas forcément très gracieuses au regard de certaines, avec des murs pas droits notamment. Moi je me souviens surtout quand j'ai fait ma formation, que les gens pouvaient associer ça à des trucs pas droits. Et alors, j'ai aucun problème, et je trouve ça très beau, les endroits pas droits, et de briques et de brocs. Mais même quand on veut des choses pas de briques et de brocs, et il va falloir que j'en ai une définition à force de ça, et des murs bien droits et bien plans, ou je ne sais quoi. Et ben en fait, même avec la terre, on peut, et même avec ces techniques-là, on peut arriver à ça, quoi. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime bien par rapport à la construction en bottes de paille, qui est apparue du coup à la fin du 19e siècle aux États-Unis et au début du 20e en France. C'est que les gens au début ne croyaient pas, une fois fini, que c'était des maisons en paille, en bottes de paille. Parce qu'une fois fini, avec tous les parements intérieurs et extérieurs, c'était des maisons qui paraissaient des plus, entre guillemets, normal, quoi. Et du coup, les premiers constructeurs paille, visiblement, avaient cette petite habitude de mettre à l'intérieur de la maison un endroit où ils laissaient la botte de paille apparente grâce à ce qu'on a appelé une fenêtre de vérité, qui est une fenêtre à l'intérieur de la maison, mais qui donne sur rien, qui donne sur le mur, quoi. Mais vraiment pour montrer aux gens qu'il y avait une botte de paille là, quoi. Et que c'est vraiment une maison
en botte de paille.
Et que c'est possible, et que ça marche. que les trois petits cochons, c'est pas la finalité.
Parce qu'on dit souvent aussi, enfin moi je peux entendre souvent, mais la botte de paille ou la paille en général, ça va attirer les rongeurs ou ça peut prendre plus facilement le feu.
Ouais, et qu'ils ont effectivement a priori des réflexes sensés de penser ça. Alors non, ce qui attire les rongeurs en fait, c'est la nourriture, le chaud aussi, mais avant tout la nourriture. Et les bottes de paille, si elles ont bien été ici tout le les graines ont été retirées de la paille, quoi, bien décortiquées, ça fait qu'ils sont quand même pas tellement attirés parce que c'est, y a pas à manger dedans. Et la compression en effet de la paille, et la paille de blé en l'occurrence, une fois compressée, fait que les rongeurs n'y vont pas dedans. Et parce que c'est un, c'est trop compressé, et deux, en plus, même quand ils commencent à grader, il se trouve que la paille, c'est très siliceux. Voilà, ça a beaucoup de silice, là, le revêtement extérieur de la paille, ce qui fait que ça les irrite assez vite, voire ça peut les blesser, les rongeurs. Et visiblement, les rongeurs, c'est hémophile. Donc une fois que ça saigne, ça a du mal à cicatriser. Donc c'est assez dangereux pour eux. Ici, on l'a vu en stockant les bottes de paille qu'on s'est fait livrer d'un autre agriculteur du Tarn. On les a stockées 2 ans dans une grange où toutes les rongeurs du monde pouvaient y passer. Il y a eu quelques bottes un peu grattées sur l'extérieur de la botte, mais pas plus, quoi. Elles étaient peu en nombre et c'était à peine troué. On avait senti qu'ils ont essayé de s'y mettre dedans, mais en fait ils ont renoncé. Et en fait les bottes étaient parfaites, encore intactes pour les utiliser, donc vraiment aucun souci. Donc les rongeurs, ça, il n'y a pas trop de problème. Et le feu, en effet, la grosse question du feu, toujours pareil, c'est dû à cette compression-là. Parce que pour faire un bon feu, il faut du combustible, du carburant, enfin là, la paille, quoi. Mais il faut aussi du comburant, l'air, et la paille est tellement compressée qu'en fait, il n'y a pas assez d'air pour que ça brûle. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une combustion lente, en fait, de la botte de paille. Et au final, par exemple, les pompiers préfèrent un bâtiment en botte de paille qu'un hangar métallique, par exemple. Parce que le métal va... lui, par exemple, il va fondre et rompre beaucoup plus facilement, donc c'est beaucoup plus dangereux. Quand c'est isolé au polystyrène, le polystyrène brûle beaucoup mieux que la botte de paille, donc ça va très vite, les départs d'incendie. Et encore, dans l'actualité récente, là, en Suisse... Un établissement là où il y a eu des gens qui sont morts parce que c'est une mousse en fait qui a pris feu, ouais. Qui a vraiment propagé en tout cas l'incendie. Là, moi je le parle et je l'explique un peu, mais en effet, ça a été testé en fait, avec des murs tests sur lesquels on a mis le feu, ça a été mesuré justement en fonction de la compression des bottes, tout ça. Donc, c'est des choses qui ont été validées scientifiquement en laboratoire pour vraiment. Acté qu'il n'y avait aucun souci en termes d'incendie, voire au contraire, voilà, ça permet aux pompiers en fait, d'intervenir plus facilement. Il y a même des immeubles qui ont été construits avec des mélanges de techniques, béton, bois, bottes de paille. Tout ça pour dire que la botte de paille est aussi rentrée par exemple dans les marchés publics. Donc à partir de là, il y avait toute une question de sécurité à vraiment prouver, quoi.
Et pour le coup, c'est renouvelable, elle pousse chaque année.
Et elle pousse chaque année, mais il y a même des gens qui sont amusés à calculer que, parce que quand même, c'est bien d'en laisser pour les terres agricoles, mais qu'on pourrait, en répartissant bien, en fait, avoir quand même suffisamment de matière qui retourne au sol et quand même en prélever un peu pour toutes nos constructions, même si jamais on faisait toutes les constructions de France en mode de bail. Il faut l'étaler dans le temps, mais ça pourrait marcher sans s'accaparer complètement la paille qui peut avoir aussi quand même cet intérêt de retourner au sol
pour la matière organique.
Pour la matière organique, à ne pas oublier.
C'était le Tarn à l'envers, l'émission de CFM Radio qui donne à entendre les initiatives locales pour que demain soit plus durable. On était avec Gaël Cortès, artisan en éco-construction, sur la ferme collective et polyvalente des chlorophylliens à Monestier dans le Tarn. Vous pouvez retrouver ces 2 épisodes en podcast sur cfmradio.fr dans la rubrique Émissions, le Tarn à l'envers.